Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Ben.
Salut à tous.
Et d'ATH.
Salut, salut.
Cette semaine, podcast spécial fuite, j'ai envie de dire, parce que bon, on n'est pas à l'E3, mais bizarrement, on a déjà l'impression d'y être. Parce que, tout simplement, il y a eu plein de petites choses qui ont été annoncées, si bien qu'on se demande de plus en plus si le salon a un réel intérêt, mais ça, on vous en reparlera tout à l'heure. Donc, comme je l'ai dit, édition spéciale E3 cette semaine, et nous allons commencer par les rumeurs de l'E3, et après nous ferons un petit passage en revue, c'est-à-dire qu'on verra les jeux multi-supports, les grands absents, Sony, Microsoft, Nintendo, voilà, on fera un petit bilan de tout ça, de tout ce qui est déjà annoncé, de ce qui est attendu, et puis on terminera aussi par une petite discussion autour de la réalité virtuelle, puisque comme vous le savez, il y a eu des démonstrations des kits de Valve et d'Oculus. Donc d'ailleurs le truc de réalité virtuelle de Valve, il s'appelle comment déjà? J'ai déjà oublié.
VR, non?
Oui, VR. Ouais. Nous allons donc commencer avec les rumeurs de l'E3. Et bon, messieurs, on va faire simple, hein, parce que là, je vous avoue, vous vous en rendez probablement compte, c'est un peu le bordel. Je vais faire les jeux un par un, vous allez me dire ce que vous en pensez, si vous avez des attentes particulières, tout ça, sachant que j'annonce, personnellement, je sens que je vais beaucoup m'emmerder à cette E3, mais ça, c'est du spoiler, déjà. Alors, Mass Effect 4.
Ouais, bah on se doute vraiment que lui va y être, parce que ça fait un moment que voilà, Mass Effect, ça, on en parle. Alors moi, c'est une licence que j'ai pas faite, mais qui m'attire. J'ai jamais eu l'occasion, enfin j'ai jamais pris le temps surtout. Peut-être que je commencerai avec cet épisode-là, mais ouais, ça peut être typiquement c'est un des jeux qui risque de le plus m'intéresser sur cette E3, pour dire voilà.
Alors que tu ne connais pas beaucoup la licence.
J'en ai entendu parler, j'ai vu plein de trucs, mais j'ai jamais joué. Mais après, bon, je connais le principe de la licence, voilà, c'est...
Alors, ce qui est surtout intéressant, moi, c'est déjà où ça va se situer chronologiquement. Est-ce que c'est une préquelle, une séquelle? Est-ce que ce sera vraiment le même jeu? C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont partir sur un système totalement différent, ou est-ce que ça restera plus un TPS qu'un RPG, quoi? Bon, ça, c'est des questions que je me pose. Après, bon, est-ce que j'attends fondamentalement Mass Effect 4? Pas plus que ça. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour de la licence. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'univers, quoi, entre guillemets. Le reste, si c'est le même gameplay qu'avant, je sens que je vais me lasser, en fait, tout simplement.
Ouais, par exemple, ça serait bien qu'ils fassent une sorte de monde ouvert où tu peux aller de planète en planète et plus que t'es obligé de passer par une sorte de map dans le vaisseau.
Ou alors moi, tu vois, je verrais bien un Mass Effect dédié uniquement à une planète, tu vois, en fait, une planète alien, et tu explores cette planète, par exemple.
Oui.
Ça pourrait être sympa. Mais bon, du coup, comme il s'appelle Mass Effect 4, je pense que faut pas compter là-dessus. Ça, ce genre de truc, ça serait plus sur un épisode spin-off. Je pense qu'ils vont reprendre les mécaniques de la série et qu'on va encore avoir un petit vaisseau, on va se balader, quoi.
Ouais, mais après, ça peut être Mass Effect 4, une sorte de séquelle où il raconterait la guerre du premier contact entre les humains et les Turiens, par exemple. Mm-hmm. Qui a été décrit dans la série, on en entend beaucoup parler. S'ils te mettent ça comme préquel, où c'est la première fois que les humains rencontrent des extraterrestres, ça pourrait être aussi pas mal, tu vois.
Autre rumeur du salon, Dark Souls 3. Alors, est-ce que ça commence pas à faire un peu beaucoup à TH?
Ouais, ça commence à faire quand même pas mal de Souls, avec les démons, Dark, Bloodborne, parce que moi je rentre quand même dans cette catégorie-là.
Oui, c'est un Souls.
Voilà, c'est un Souls, très clairement. Donc là, ça commence à s'annualiser un petit peu, on va dire. Que déjà, Dark Souls 2, je l'ai pas fait parce que, voilà, je voulais respirer un petit peu entre chaque Souls.
Bah, surtout que Dark Souls 2 est l'opus le plus critiqué de la série, notamment, alors ça, j'y ai pas encore joué, donc je veux pas avancer là-dessus, mais de ce qu'on m'a dit, le souci de cet épisode-là, c'est que justement, les créateurs avaient un peu compris de travers les mécaniques des Souls, c'est-à-dire qu'ils ont fait de la difficulté pour la difficulté, alors que le créateur de Dark Souls a bien toujours dit que la difficulté, c'était pas l'objectif du truc, quoi. Donc, ça donne des incohérences en termes de game design que tu n'as pas sur les précédents. Donc,
voilà. Bon, en fait, tu vois, entre Dark Souls 1 et Dark Souls 2, je trouvais qu'il y avait les les changements n'étaient pas significatifs et que c'était voilà, c'était la même chose.
Ça faisait pas envie quoi.
Bah en fait ça me faisait pas envie de revenir dedans dans le même truc, même si l'univers et tout ça c'est pas pareil, mais enfin ça reste c'est comme si tu jouais au même jeu et c'était ils auraient pu faire un DLC ou un add-on, ça aurait été pareil quoi. Alors que là Dark Souls 3, j'attends vraiment de voir ce qu'ils m'ont proposé, si il y a quelque chose qui va m'attirer, mais après si ça reste dans le même principe et tout ça, bah je verrai combien, dans combien de temps il va sortir et vraiment qu'est-ce qu'il va apporter de plus à la série, parce que s'ils font un Dark Souls 2.5, non, ça m'intéresse.
Mais surtout qu'à mon avis le créateur de la série n'est pas là-dessus puisqu'il était sur Bloodborne, donc
oui, mais je crois qu'il est devenu président de son studio. J'ai dit une bêtise, mais je crois que c'est lui qui est devenu le directeur du studio en gros.
OK, bon. Bon, dans tous les cas, je suis inquiet parce que je trouve que effectivement ça a tendance à s'annualiser cette série. Et j'ai tendance à penser que Dark Souls, c'est une série qui ne peut pas s'annualiser typiquement, parce que il y a un tel souci en termes de game design que c'est pas un truc que tu peux industrialiser comme ça, quoi. C'est un jeu, il faut prendre du temps pour le faire, pour que ce soit un jeu de qualité, quoi. Surtout que après, il y a un autre souci, c'est que Bloodborne a apporté un certain nombre de choses à la série, mais du coup j'ai peur qu'il y ait un retour en arrière par rapport à cet épisode-là, ou en tout cas qu'il ne propose pas quelque chose de différent par rapport à ses prédécesseurs, parce que fondamentalement il est pas obligé de reprendre certaines mécaniques de Bloodborne, hein, on est d'accord. Mais du coup, est-ce qu'il va proposer des nouvelles choses pour que ce soit un Souls à part entière, mais qui soit vraiment différent, quoi, quelque part. Il serait temps, quoi, j'ai envie de dire, parce que... Déjà, bon, Dark Souls et Demon's Souls, il y avait eu des évolutions, mais c'était pas non plus ouf, quoi.
Ça reste quasiment le même jeu. Enfin, Demon's Souls, c'est Dark Souls, c'est le nom qui change, quoi. Et après,
oui, non, voilà. Alors, sauf que Dark Souls, quand même, t'as tout cet aspect...
Monde connecté.
Genre, je vais pas dire Metroidvania, mais...
Oh, oui, c'est ça, c'est un Metroidvania. pour moi, c'est un Metroidvania, sauf que t'acquiers pas de capacité pour évoluer dans le monde, mais c'est en tuant des boss, quoi, c'est des clés.
Ouais, si tu veux, c'est un Metroidvania au niveau de la map, quoi. C'est-à-dire voilà, oui. Que tu débloques des accès qui te donnent des raccourcis, etc. Et personnellement, moi, c'est ça qui me plaît sur Dark Souls, c'est qui fait que, même si je pense que je prendrais du plaisir sur un Demon's Souls, par exemple, j'y prendrais moins de plaisir parce que le côté un peu linéaire, ça me branche moins, quoi.
En fait, c'est pas linéaire, mais c'est, disons que t'as un hub et là tu choisis, ouais, voilà, le monde. Je parle vraiment pour ceux qui n'ont jamais joué. En fait, Demon's Souls, c'est vous avez un hub et vous revenez en fait tout le temps au Nexus et après là vous choisissez dans le monde dans lequel vous allez. Mais c'est pas un monde qui est vraiment connecté comme dans le premier Dark Souls et Dark Souls 2. C'était un truc un petit peu bâtard entre guillemets qui mélangeait ces systèmes-là et c'est pour ça que aussi il est un peu moins plu. Bloodborne, il est revenu à un monde connecté entièrement. Sauf qu'il y avait une chose qui était chiante dans Bloodborne, c'était que pour augmenter ses statistiques, on était obligé de revenir dans le rêve du chasseur, c'était un hub, et puis après, on retournait dans le monde qui était connecté. Je sais pas pourquoi ils ont choisi de mettre un truc qui était totalement à part, ça dérange un petit peu. Après, pour Dark Souls 3, moi j'ai vraiment, mais surkiffé le système de combat de Bloodborne, et là, c'est de revenir à un truc vraiment lent, comme dans les Dark Souls.
Après, tu sais, on pourrait imaginer un système hybride, c'est-à-dire que, en gros, quand tu joues une classe orientée Dex, t'as plutôt un gameplay à la Bloodborne. Et quand tu joues une classe lourde, c'est-à-dire un gros chevalier, etc., t'as plus un gameplay à la Souls, basé sur les boucliers, etc., quoi.
Ça serait quand même assez dur de mettre les deux gameplays dans un jeu. Après, je sais pas, peut-être que s'ils y arriveront, ça serait le meilleur pour tout le monde. Mais, j'ai un petit peu peur que non, quoi.
Ok, bon, on enchaîne.
Excusez-moi, Big Runner.
Je viens de voir le titre, ça m'a fait rigoler. Donc, The Last Guardian, encore une fois. C'est un peu le running gag qui revient chaque année. Donc, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui l'attend ici? Sérieusement.
Franchement, non.
L'attendre sérieusement, on peut pas l'attendre sérieusement. Parce que, comme t'as dit, ça fait tellement d'années qu'on l'attend. Qu'au final, c'est peut-être cette année, on a pas trop entendu parler. Alors là, il y a une vieille rumeur qui est sortie que je sais plus qui bosserait dessus. Donc bon, on verra.
C'est Marc Cerny, l'architecte de la PS4.
Ouais, voilà, ouais. Exactement, voilà. C'est ça. Donc il y a cette rumeur. Voilà, peut-être que c'est l'année où on l'attend le moins, où on va le voir. Mais bon, on peut pas vraiment l'attendre, ce jeu. Puis on en a finalement jamais vu grand-chose non plus, quoi. Que ce soit en termes de gameplay ou autre.
Enfin, si tu veux, le développement était tellement chaotique... que moi ça me fait toujours peur ce genre de truc. On a vu ce que ça a donné avec Jungle Camp Forever, hein.
Voilà, mais c'est un jeu qui a commencé il y a quelques années, ça veut dire que ce qui a été fait au début est plus du tout adapté de nos jours, donc faire un jeu sur X années, c'est pas gérable parce que le début va forcément être dépassé quand tu vas arriver sur proche de la sortie, donc c'est voilà.
Bah d'ailleurs on voit Final Fantasy XV comme une galère, là ils mettent même à jour la démo maintenant.
Donc, ouais.
T'as l'impression que la démo, en fait, c'est un early access.
Non, bah, en fait, voilà, Final Fantasy XV, je pense qu'ils ont repris le dev du début, et voilà, quoi. Au bout d'un moment, t'as pas le choix.
Ouais. Bon, voilà, c'était la blague de la semaine, hein, évidemment. Après, je veux dire, c'est possible, hein, parce que comme la conf Sony, on verra tout à l'heure, pour le moment, ça a pas l'air ouf, hein.
Ah oui, techniquement, c'est pas, enfin, ils peuvent nous le sortir, oui.
Bon, nous allons enchaîner sur une rumeur par rapport à un nouveau jeu Platinum. Alors, il se murmure que ce serait Vanquish 2. Si c'est le cas, je fais péter le champagne, mais bref, c'est juste le meilleur TPS jamais sorti, hein, j'annonce. Mais dans tous les cas, nouveau jeu Platinum, moi ça m'intéresse, comme toujours. Mais après, j'espère que ce sera pas un nouveau jeu Platinum en mode Scalebound l'année dernière, c'est-à-dire que tu vois un trailer en CGI et en fait tu vois pas le jeu, quoi.
Ouais. Il y avait aussi une autre rumeur, c'était la suite à Metal Gear Rising Revengeance, où vous vous rappelez, il y avait eu une sorte de polémique où, dans une conférence Sony, enfin dans une vidéo d'une conférence Sony, on voyait un 2 apparaître comme ça, mais en image subliminale. En tout cas, moi, j'aimerais bien soit Vanquish 2, soit Metal Gear Rising Revengeance, parce que j'avais vraiment bien aimé ces deux jeux. Ils étaient, le seul défaut que j'avais pu leur trouver, c'était qu'ils étaient un petit peu courts, mais c'est des jeux à scoring, quoi. Tu le finis,
ouais,
tu recommences.
Ouais,
non, mais franchement, c'est le gameplay, hein. Il est tellement petits oignons, les jeux de Platinum Game. C'est d'ailleurs eux qui ont fait les Bayonetta et tout ça, et c'est, à chaque fois, c'est des jeux qui vendent pas énormément, mais moi, tant je m'en fous, parce que moi, c'est le genre de jeu qui me plaît. Donc, ouais, si un Beat'em All est encore ultra nerveux et tout, je signe direct pour Platinum, quoi.
Bah, de toute façon, c'est le malheur de Platinum, c'est qu'ils font de très bons jeux, mais qu'ils se vendent pas.
Ouais. c'est exactement ça.
Allez, ça c'est fini pour les rumeurs, on va passer aux jeux multi-support maintenant. Donc on va commencer par Hellblade. Hellblade, donc, c'est le nouveau jeu de Ninja Theory, Evenless Lord, DMC, voilà. Enfin, disons que le meilleur de Ninja Theory, c'est DMC, et le pire, c'était Evenless Lord, c'est-à-dire un beau jeu, mais très très chiant, quoi. Donc j'espère qu'on se rapprochera plus de DMC, même si, bon, on est d'accord que DMC, fondamentalement, c'était un bon jeu, mais c'était pas non plus...
C'était pas fou.
Le Devil May Cry le plus incroyable de la création, quoi, on va dire. C'est pas Bayonetta, quoi. Mais si c'est un jeu du niveau de DMC, pourquoi pas. Après, le truc, c'est que le jeu, il me semble qu'on n'en sait pas grand-chose, en fait.
Bah, c'est ça, c'est qu'on a une cinématique, et apparemment... De ce que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est que ça serait un jeu où ça serait basé sur la psychologie du personnage, de l'héroïne qu'on voit. Ok.
Attends, on parle bien de Ninja Theory, là.
On parle de Ninja, oui, on parle bien de Ninja Theory, mais enfin, tu vois, ça, c'est les genres de trucs, qu'ils annoncent. Après, voilà, enfin, même la cinématique, quand je l'ai vue, bah, pour l'instant, ça me donne pas trop envie d'en savoir plus, parce que, ils dévoilent pas beaucoup de choses, et, bah, je sais pas, c'est monotone, quoi, en fait.
Bah, le seul truc qu'on sait, c'est qu'a priori ce sera beau, hein, parce que c'est Ninja Theory, on a l'habitude, quoi, en slave, enfin, tous leurs jeux sont beaux, donc, y a pas de raison que ce soit pas le cas de celui-là, mais pour le reste, voilà. Ben, quelque chose à ajouter?
Non, rien de plus.
Mirror's Edge Catalyst, alors là, j'ai peur, parce que quand je vois la merde que font les marketeurs là-dessus, je me dis putain, qu'est-ce qu'on va avoir, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on nous fait ça pour un semi-reboot, de ce que j'ai compris. D'un autre côté, je me suis dit, bon, le premier avait pas marché, donc ils vont forcément complètement changer le gameplay. Voilà, moi je suis dans l'expectative, je ne sais pas à quoi m'attendre. Pour le moment, les gesticulations du marketing me font peur, mais à part ça, on sait pas grand-chose en fait.
Bah en fait, moi ce qui me fait super rigoler, c'est la déclaration marketing qui a été faite. Donc je vais quand même vous la lire parce que je la trouve quand même assez comique.
Ça vaut son pesant cacahuète.
L'équipe a passé énormément de temps à remodeler chaque aspect du jeu pour en faire une expérience inédite. Il ne s'agit pas d'une suite, ni d'un Mirror's Edge 2. Ok, mais c'est quoi alors? Allô?
Surtout qu'après ils te disent que, enfin, ils essaient de tempérer le truc. C'est une suite, mais pas vraiment. Enfin, tu sais pas.
Je pense qu'ils veulent faire comprendre aux mecs, aux personnes qui ont acheté le 1, que ça sera pas pareil et qu'ils peuvent acheter le 2 et qu'ils auront pas le même jeu, quoi. Je pense que c'est peut-être pas bien dit ou un terme marketeux, mais c'est le but. Comme tu disais, le 1, c'est un jeu qui avait des possibilités, mais qui a pas bien marché. Enfin, qui avait quand même des ratés. Et là, s'ils font une sorte de, comme tu dis, une suite reboot, on sait pas trop, mais je pense qu'ils vont changer quand même pas mal de choses, parce que après, s'ils ont appris de leurs erreurs, tant mieux. À voir.
Ouais, sauf que moi, enfin, je trouvais parfait en fait Mirror's Edge, mais
bon, ouais, mais toi, mais s'il a pas, comme tu l'as dit, il a pas bien marché.
Oui, mais justement, pour le coup, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas adressé aux gens qui ont acheté le 1, parce que ceux qui ont acheté le 1, c'est-à-dire pas grand monde, on est d'accord. Mais les gens qui ont acheté le 1 ont adoré le 1, en fait, voilà, c'est ça. Donc, mais du coup, parce que c'est vraiment un jeu plateforme hardcore à la première personne, quoi, mais en fait. Ce qui est d'ailleurs très surprenant venant d'Electronic Arts, hein, je tiens à le dire, c'est vraiment le jeu le plus surprenant qu'a pu sortir Electronic Arts ces 10 dernières années.
Bah, c'était après les Sims 4. Moment où EA avait encore un peu de couilles, quoi. Ils avaient annoncé Mirror's Edge et Dead Space en même temps. Et puis depuis, bah non, en fait, ils font que des suites à la chaîne. Enfin, c'est un petit peu triste.
Bon, en même temps, bon, quand tu vois l'échec de Mirror's Edge, tu te dis comment ils ont une excuse, quoi.
Ouais, mais bon, tu vois, Dead Space aussi, il avait pas super bien marché, mais ils ont plus insisté que pour Mirror's Edge, quoi.
Ouais. Mais d'un autre côté, quand tu vois ce qu'ils ont fait avec Dead Space.
Oui. Bah, c'est ça, c'est pour ça, parce que Dead Space 3, ça a plus rien à voir avec le premier, quoi. Voilà. Le premier, c'était un survival. Le 3, c'était un TPS nul, là, chier, en plus.
Bah, c'est pour ça que tu vois, quand je vois les annonces qui font, enfin, la communication autour de Mirror's Edge, j'ai très peur, parce que je me dis, on va se retrouver avec un putain de FPS, alors comme Mirror's Edge, c'est à la base un jeu de plateforme, où, franchement, la partie FPS, tu t'en fous, quoi.
Bah, voyez, tu peux quasiment finir le jeu, enfin, tu peux finir le jeu sans tirer une seule balle, quoi.
Bah, c'est même recommandé de finir.
Ouais, tu peux désarmer des ennemis et tout ça, et tu peux jeter le flingue, ou bien tu peux éliminer 2-3 personnes sur ton garde, mais c'est pas un jeu qui a été conçu pour faire ça, quoi. C'est juste une solution à un moment T. Tu peux pas prendre un flingue depuis le début du jeu, enfin déjà t'en as pas, et aller au bout du niveau en désinguant tout le monde, quoi. C'est impossible. Ouais.
Bah, surtout qu'au bout d'un moment, les munitions sont vides et tu jettes le flingue.
Ouais, c'est ça. Que,
voilà. Bon, dans tous les cas, à voir. Pour le moment, Mirror's Edge, ce qu'on avait vu, c'était que du proto et ça ressemblait au 1. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon.
Enfin, du proto, du proto très moche encore, parce que c'était la vidéo qu'ils avaient montré, c'était, enfin déjà pour EA, c'était le 3, enfin oui, le 3 de la honte à ce moment-là. Et ce qui est assez marrant, c'est que tu vois, même dans leur communication, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire avec ce jeu-là. J'ai l'impression. Oui, c'est une préquelle, c'est un reboot déjà d'une série qui a un seul épisode. Ok. Enfin, c'est pas clair encore. Donc, j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont proposer et qu'ils mettent vraiment, ils disent vraiment ce que c'est, parce que au bout d'un moment, on parle aussi d'un monde ouvert. Et ça me fait un petit peu peur, je t'avoue, pour un Mirror's Edge, quoi. Si c'est mal fait et tout, enfin. Ouais.
Exactement. Soma. Donc, le prochain jeu des créateurs d'Amnesia The Dark Descent, jeu d'horreur, je le rappelle, qui a eu un énorme succès à l'époque où il est sorti. Alors, là, comme ça, je dirais, j'adhère complètement. C'est-à-dire que pour le moment, de ce qu'on a vu, c'est ça ressemble énormément à un espèce d'Alien Isolation, avec en plus un petit côté BioShock meets Alien au niveau de la DA, c'est-à-dire que ça se déroule sous l'océan, mais que au niveau des décors, t'as un petit côté Alien par moment et par d'autres, t'as un côté BioShock. Enfin bref, j'adhère totalement. L'ambiance a l'air démente, en tout cas. J'attends d'en voir plus.
C'est vrai que quand j'ai vu la vidéo, ça m'a fait penser au premier BioShock. Après, voilà, Amnesia, c'était un très bon jeu, d'après les retours. Donc, si celui-là, il est réussi, c'est avec une DA comme ça, enfin, je pense que il y a moyen de leur faire confiance, en tout cas.
Ben, est-ce que tu as une flippette?
Non, parce que j'ai joué à Amnesia.
Ah, c'est bien.
Mais est-ce que tu l'as fini?
Non, je l'ai pas fini. Voilà, en fait, j'avais joué juste pour découvrir vraiment ce que c'était, parce que j'en avais entendu parler et ça avait l'air intéressant. Enfin, ça changeait un peu et c'était, voilà, c'était franchement, c'était bien fait. Après, moi, je suis pas fan, ultra fan de ce type de jeu, donc c'était plus par curiosité que j'avais testé, mais c'était franchement, c'était bien fait, quoi.
Voilà. Donc, No Man's Sky. Alors là.
The big hype.
Donc on l'a mis en multi, mais il faut savoir que les mecs, ils ont un peu été récupérés par Sony, hein, parce que sur console, par contre, c'est l'exclusif à Sony. Alors eux, par contre, ils ont la pression là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est compliqué, quoi.
Ouais, ils sont... enfin, les gars qui travaillent sur ce jeu-là, ils ont la pression parce qu'en même temps, ils ont annoncé un petit peu Monts et Merveilles la première fois. Et puis depuis, en fait, à chaque fois, ils remontent quasiment les mêmes vidéos avec une ou deux minutes de plus. De gameplay, mais
et on se dit, mais en fait dans ce jeu on fait quoi?
Ouais, oui, c'est ça, qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu là et comme en fait il avait gagné un petit peu par défaut le PlayStation Experience parce qu'il y avait vraiment rien et que c'était le seul truc qui était un peu nouveau à ce moment-là. Non, faut c'était un truc je crois c'était comment ça s'appelle ce truc de merde là, les Game Awards où il était arrivé, c'était la seule chose, la seule nouvelle licence qui était arrivée en fait, et toutes les autres trucs on les avait déjà vus à l'E3, c'était une redite de l'E3, les VGX en fait, et il y avait que No Man's Sky qui était venu et voilà, personne s'y attendait, et genre donc là à ce moment-là il y a eu un gros hype sur le jeu. Et
bah depuis, surtout que le jeu était super joli, quoi, faut dire ce qu'il y a.
Oui, non, mais après c'est ça. Mais en fait, mais les mecs, ils étaient quatre, parce que je rappelle que les mecs qui font No Man's Sky, ils sont que quatre, quoi. Et donc là, les mecs, ils ont été mis un peu en avant devant, comme ça, devant tout le monde, et ils avaient promis un peu Monts et Merveilles. Et là, j'ai l'impression, tu vois, que depuis, bah, on n'entend plus trop parler. Et je sais
ils
pas
font si les morts.
Voilà, c'est ça, exactement.
Enfin bref, moi personnellement, on va dire que j'en attends pas grand-chose parce que on va dire depuis Starbound, je me méfie des jeux qui te promettent plein de choses et on voit au final ce que ça donne quoi. Petite pique à Starbound au passage. C'est d'ailleurs pour ça que j'y joue plus en coop avec Morden, hein, parce que honnêtement le jeu m'emmerde grave quoi. C'est du minage, enfin bref, c'est pas un jeu intéressant. Bref. Dans tous les cas, on va surveiller du coin de l'œil, parce que quand même, il avait fait un certain nombre de promesses. Mais moi, je dis aux gens qui l'attendaient avec impatience, méfiance.
Ouais, là, celui-là, il faut... Bon, en tout cas, moi, je prenais des grosses pincettes pour ce jeu-là, quoi.
Là, le problème, c'est vrai, c'est que c'est un jeu qui a été ultra hypé tout de suite, alors que, comme tu disais, les mecs qui le font ont pas fait de pub sur le jeu, il y a pas eu une grosse campagne marketing derrière, mais ça a été tout de suite hypé. Et du coup, bah, à chaque fois, maintenant, on en attend, alors qu'on sait pas vraiment ce qu'on doit faire dans le jeu même. Alors, on a des petits concepts, on sait qu'on va voyager de planète en planète, etc. Mais après, on connaît même pas le but précis du jeu. Et pourtant, c'est un jeu qui est attendu, voilà, par tout le monde, on dirait.
En fait, c'est ça le truc qui a, je pense, qui a vendu le jeu la première fois à tout le monde. C'est le fait que tu vois le développeur quand il jouait, il montait dans un vaisseau. Et hop, là, tu vois, il était sur une autre planète. Il décolle comme ça, il va sur une autre planète comme ça au hasard. Et c'est ça que tout le monde a vu ça. Il a dit, attends, si je peux faire ça en temps réel. Voilà, enfin c'est un truc de dingue, comme ça ils ont annoncé des milliards de planètes et tout ça, donc tu te dis ok.
Mais je pense que c'est les devs du jeu qui se sont retrouvés un peu prisonniers entre guillemets de leur truc, parce que eux ils devaient même pas s'attendre à autant de hype, et aujourd'hui ça va être compliqué pour eux parce que forcément les gens vont être déçus quoi qu'il arrive.
Ouais, je pense que il y a de ça.
Alors The Witness, le prochain jeu de Jonathan Blow, donc créateur de Braid, hein. Il était temps, j'ai envie de dire, parce que ce jeu, ça fait un moment qu'il a été annoncé quand même. Donc je rappelle, c'est un puzzle game, hein. Voilà, il y a une certaine hype autour de ce jeu. Pour le coup, là, c'est plus dû à l'auteur, parce qu'on sait qu'en termes de gameplay,
il fait des bonnes
choses. Le mec s'y connaît, quoi. Et en plus, bon, le jeu est assez joli aussi, faut dire ce qu'il est. Mais sinon, bon, personnellement, pas plus d'attente que ça. Je sais que le jeu, a priori, sera de qualité. Depuis tant qu'il bosse dessus, après, bon... je pense, voilà, enfin, vu la hype qu'il y a autour...
J'aime pas trop ce genre de jeu. Mais après, The Witness, de ce que j'ai pu entendre dire, c'est que quand même, il a l'air assez hardcore. C'est voilà, c'est pas l'air d'un jeu facile, mignon, j'entends les gens en parler. Donc, pour ceux qui s'intéressent, enfin, ceux qui aiment bien les challenges et tout ça, je pense que ça pourrait les intéresser. Mais, tu sais, moi, les jeux un peu comme ça, même, à la Myst où t'es tout seul sur une île, parce que c'est un peu comme ça, c'est un peu le même genre de truc. Sauf que c'est pas du point and click, mais t'as des énigmes vraiment à faire sur l'île.
Bah, la Talos Principle où... un peu.
Ouais, bah, c'est ça.
Ou les jeux où il y a personne, où t'es tout seul comme ça, et, j'ai l'impression d'être vraiment, laissé à moi-même. Ça me fait un peu flipper, donc j'aime pas trop, tu vois.
Alors, on va passer aux grands absents. Et vous allez voir, bizarrement, il y a beaucoup d'exclus Microsoft. il y a même que des exclus Microsoft, en fait.
Oui, c'est ça.
Donc, il y a Kragon 3, Scalebound, Quantum Break. Alors là, c'est simple, en fait, ils seront à Gamescom. Voilà. Mais du coup, on se dit, mais Microsoft, ils vont montrer quoi? Hello, guys!
Bah, de toute façon, après, on a une rubrique où on va parler des jeux Microsoft. Mais là, en tout cas, pour les grands absents de l'E3, enfin, Crackdown 3, bon, bah, déjà, le 1 et le 2, voilà, bof, quoi, la licence. Enfin, je parle pour moi, bien sûr, hein. Scalebound, bah, c'est un jeu Platinum Game. J'aimerais bien voir du gameplay, parce que là, voir un mec avec un dragon qui écoute de la musique, enfin, c'est super, mais voilà, à quoi ça va ressembler? Et Quantum Break, bah, le jeu, c'est un jeu Remedy, quoi. À chaque fois, ils mettent 3 pompes à sortir un jeu. Et puis, à la fin, je suis toujours déçu quand ils sortent, je suis pas toujours déçu, mais quand ils ont sorti Alan Wake, j'étais un petit peu déçu du résultat final. Max Payne, c'était bien, mais c'était toujours la même mécanique du jeu qui était utilisée du début jusqu'à la fin. Comme pour Alan Wake aussi. Et j'ai un peu peur que Quantum Break, là, ils ont une idée de remonter dans le temps et tout ça. Et qu'au final, bah, on fasse tout le temps ça du début à la fin. Même je sais plus si vous en souvenez, mais à la base, il y avait une série live qui devait être faite en même temps. Bah, on dirait que ça a totalement squeezé. Donc, Quantum Break, voilà. Remedy, ils sortent leur jeu, mais ils prennent leur temps. Et au final, pour moi, c'est toujours une petite déception.
Ok, Ben, rien à ajouter non, là-dessus. Ouais. Titanfall 2 aussi, je tiens à préciser qu'il sera absent. Mais bon, ça, on s'y attendait, j'ai envie de dire. Enfin,
et on s'en fout.
Personnellement,
aussi.
Je pensais... Oh, putain, allez,
il a dit quoi?
Ça commence. On s'en fout aussi.
Oui, c'est vrai.
Ok, non, mais d'accord, très bien. Ok. Non, mais de toute façon, en plus, je veux dire, moi, personnellement, je pensais pas qu'il serait à l'E3, parce que le jeu, concrètement, ils ont rien montré, il y a eu aucune communication dessus, c'est pas vraiment le style de IA, donc... Il y a aussi Homefront 2, mais ça, c'est pareil.
On s'en fout aussi.
Non seulement on s'en fout, mais en plus, il y a rien qui avait été montré, donc bon, voilà. Allez, nous allons maintenant passer aux constructeurs, les exclus qui nous intéressent durant les conférences. Enfin, qui nous intéresse. Non. Je déconne. Sony. Alors là, si peut-être que ça intéressera à TH. Ça, c'est le remake reboot de Ratchet & Clank. Alors, pourquoi remake reboot? Parce que normalement, c'est antinomique. Mais c'est quoi la spécificité de ce projet, en fait?
Bah, en fait, c'est Ratchet & Clank qui va sortir au cinéma en film. Donc, c'est le jeu tiré du film, tiré du jeu, en fait. Voilà.
Ok.
Mais enfin, moi, c'est pas quelque chose qui pourrait m'intéresser. J'aime bien les jeux de plateforme, mais après, j'ai jamais joué à Ratchet & Clank. Là, j'en ai un qui est sur ma PlayStation 3. Je crois que c'est Ratchet & Clank Quest of Booty, que j'ai chopé gratuitement. J'ai jamais lancé. Je vais peut-être me faire une idée en jouant à celui-là pour voir si c'est bien ou pas, parce que apparemment, j'ai compris que il y a deux sens de lecture, un peu comme un bon Pixar. Genre. Mais enfin, moi, c'est en tout cas celui-là, je vais pas me sauter dessus à la sortie, quoi. D'abord, je vais essayer d'en m'en faire un, mais la seule chose qui me repousse un petit peu, c'est quand je vois les vidéos de gameplay, c'est qu'il y a beaucoup de choses à collecter, et j'aime pas du tout collecter les choses dans les jeux vidéo, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop envie de jouer à Ratchet & Clank, quoi.
Bon, après, il faut dire une chose, c'est que c'est super beau. Enfin, pour le moment, ce qu'ils ont montré, après, c'est peut-être du bullshit, hein.
Mais après, ouais, mais le trailer que j'ai vu, moi, le trailer près de toi, ils le vendent sur la bande-annonce du film, en fait.
D'accord.
Donc c'est magnifique, oui, parce que c'est du film. Mais après,
enfin ça... non, il y avait des séquences de gameplay aussi. Il y avait des séquences comparatives notamment, tu sais, où il y a la séquence du train où ils montraient la nouvelle version et l'ancienne.
J'ai vraiment vu le trailer pré-E3, et le trailer pré-E3, c'est vraiment la bande-annonce du film, en fait.
Ouais, bah non. Alors je te rassure, alors c'est très joli, mais je parle attention de direction artistique, hein, parce qu'en termes techniques, moi j'ai pas trouvé ça ouf non plus, donc voilà. Watam ensuite.
Comment l'expliquer celui-là?
Alors,
c'est un truc où les gens se tiennent par la main.
Voilà, ça explique un peu le jeu, quoi. Des gens entre guillemets.
Oui, enfin, les personnages, si tu préfères, se tiennent par la main. Alors, c'est le nouveau jeu du créateur de Katari Damacy. Ceci explique cela, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est un truc totalement incompréhensible. Les mecs, ils se font des câlins, ça fait popper un personnage. Enfin, bref, c'est très particulier.
Je pense qu'il faudra mettre une vidéo dans le résumé du podcast, parce que les gens pourront pas comprendre sinon. Et même avec la vidéo, ils comprendront pas, mais bon.
moi, de ce que j'ai compris un petit peu, c'est que on joue le maire de la ville. D'accord, voilà, jusque là, donc là, on joue le maire, mais le maire, ça, il ressemble à un cube vert.
Un cube vert.
Et voilà. Il met un chapeau melon. Et voilà, c'est tout ce que j'ai compris. Et il se tient de la main, et puis, des fois, il mange des citoyens, et après, il fait caca. Et ça, voilà, il a chié le citoyen qui vient de manger. Et tu te fais courser par des toilettes, ou tu tiens la main avec des donuts géants, des sushis. Enfin, c'est vraiment bizarre, quoi, ce jeu.
C'est un jeu vraiment japonais.
Ah non, mais là, c'est, enfin, je sais pas, c'est vraiment, hors du commun. Au moins, il a le mérite d'être original, parce que je pense pas qu'on va trouver un autre jeu dans le même style.
Ça nous change de tous les remakes, reboots, suites, du salon, ça c'est sûr.
Ah ouais.
Mais pour le coup, on comprend pas, en fait.
C'est trop innovant.
Mais du coup, alors par contre, là je vois que la liste s'arrête là, il y a rien d'autre.
Bah après il y a, enfin parce que là, enfin dans la liste on a mis des trucs qu'ils allaient te montrer à l'E3, on va pas parler d'Uncharted 4 et tout ça, quoi.
Oui, non, mais je veux dire, voilà, enfin, moi, ce qui m'inquiète, c'est que, est-ce qu'il y aura des annonces chez Sony cette année? En fait, c'est le point que je voulais aborder, quoi. Parce que là, pour le coup, plus on avance, plus je me dis, mais en fait, si ça se trouve, ils vont vraiment faire la conférence comme ça, c'est-à-dire que t'auras Uncharted 4 en vitrine, quoi. T'auras 2-3 conneries à côté, peut-être The Last Guardian
pour combler.
Pour combler les trous, quoi, on va dire, le bouche-trou, quoi. Mais à part ça, ça
après, je pense
quoi.
Qu'ils vont, enfin, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais je pense qu'il va y avoir une grosse partie réalité virtuelle aussi dans leur conf.
Puis t'auras probablement un gros focus sur God of War 3 Remastered qui a leaké là.
Non
cette
mais super, attends, God of War 3 Remastered, le truc. Déjà sur PlayStation 3, le jeu il est super beau. Je pense que vous pouvez le trouver pour 10 balles maintenant en occasion. Donc c'est rien du tout. Vous aurez peut-être du 1080p 60 fps pour la PlayStation 4 parce que c'est un jeu PlayStation 3. Mais enfin voilà quoi, c'est God of War 3 les mecs. Putain, il y a un nouveau God of War qui doit sortir, on sait pas quand. Il faut qu'ils arrêtent avec les remakes parce qu'il y a aussi le remake aussi de Uncharted Trilogy, le 1, le 2 et le 3.
Bon après on est mauvaise langue, il y a quand même Until Dawn, même si on sait pas, enfin nous ça nous fait pas du tout envie, c'est du David Cage de ce que j'ai compris en
bah,
gros.
Bah c'est du David Cage, enfin c'est un jeu avec du QTE et puis tu joues une bonasse en fait et puis voilà.
Voilà, OK. Et Tearaway Unfold, alors moi personnellement, je suis pas du tout hypé, pourquoi? Parce que je l'ai sur Vita, le jeu.
Moi
alors,
aussi,
Certes, c'est un jeu très intelligent qui exploite bien la Vita, mais c'est un jeu chiant. Donc
c'est un jeu pour, entre guillemets, pour gamins. Moi, j'ai trouvé. Après,
bah,
ça
c'est vraiment, tu sens que les mecs, ils ont des idées. Quoi,
ah ouais, non, mais il y a vachement d'idées, ouais. Ça utilise la caméra, le gyroscope, enfin, il y a plein de fonctionnalités de la Vita qui sont utilisées, puis il y a plein de mécanismes de jeu sympas. Mais après, moi non plus, je l'ai eu quand j'ai acheté mon bundle avec la Vita, mais je l'ai testé, mais c'est pas un jeu qui m'intéresse plus que ça.
C'est triste, quoi, c'est un portage, quoi, d'un jeu Vita.
Ah non, c'est pas un portage, attention.
Ah, c'est pas un portage?
Non,
c'est la même licence.
C'est la même licence.
D'accord. Ah, moi, je pensais que il me semblait que c'était un portage du jeu Vita, en fait.
Tu vois, tu es mauvaise langue, t'es là.
Désolé, non, désolé.
C'est l'habitude. Ça.
je suis trop malsain, de base.
Bon, en tout cas, les fans de la licence seront comblés, je pense.
De Tearaway?
Ouais. Mais
oui. Il doit être 4 dans le monde.
Parce que pour le coup, non, mais si, pour le coup, c'est vachement intéressant parce que, déjà, en général, Tearaway, ce qui était intéressant, c'est qu'il exploitait vraiment la Vita. Et du coup, je me dis, est-ce qu'ils vont exploiter le pavé tactile de la PS4? Enfin, est-ce qu'ils vont vraiment essayer d'exploiter la console? Moi, ça m'intéresse, en tout cas. Voilà. Pour Sony, j'ai envie de dire, en tout cas, c'est pas une conférence pour laquelle on se lèvera à 3 heures du mat, ça, c'est sûr.
Non, parce que, enfin, moi, j'ai regardé la vidéo de gameplay s'il y a d'Uncharted 4, quoi. Et puis après, je pense que s'ils annoncent rien d'autre, ça sera la conférence la plus chiante depuis longtemps. Il y aura peut-être aussi un jeu Quantic Dream. Parce qu'ils avaient montré une vidéo qui était, pour une fois, qui était bien faite, avec le sorcier et le gobelin, là, qui m'a fait bien rire.
Alors, peut-être que Sony a réservé des cartouches, on sait pas.
Ça serait bien pour eux.
Mais ça a l'air tellement improbable, parce qu'on a eu tellement de leaks que voilà, quoi. Bref, du côté de Microsoft, nous allons voir que, bon, c'est pas la folie non plus, hein. En gros, les jeux principaux, c'est quoi? C'est Forza. Bon, super.
attends, comment ça super? C'est une super licence, Forza.
Moi, ça m'intéresse pas, quoi. C'est ce que je veux dire.
Ah, moi non plus, mais les gens, ils attendent quand même un petit peu, quoi.
Halo 5, super aussi. J'aime beaucoup Halo, par contre, tu vois, mais super aussi quand même. Gears of War 4, super aussi. D'ailleurs, ça, c'est un délic, voilà. Ok, donc un jeu de caisse, deux shooters. Ouais,
c'est surtout on sort les suites de nos quasi 3 licences phares sur la Xbox, et puis voilà, quoi.
Ouais, Halo 5 d'ailleurs, dont ils ont dit qu'ils avaient rajouté le sous-titre parce que bon, ils se rendaient compte que quand même à partir de 5, ça commençait à faire
bordel.
Beaucoup, quoi. Surtout qu'ils n'étaient pas Final Fantasy, parce que Final Fantasy, ça passe fondamentalement, étant donné que de toute façon, chaque jeu est différent.
Oui.
Donc bon, on s'en fout. Sauf que là, oui, effectivement, à partir de Halo 5, ça commence à se voir quand on est au 5e épisode, j'ai envie de dire. Après, est-ce que vous attendez quelque chose? Moi, personnellement, qui aime bien la licence, je commence à me lasser. Par rapport au lore, qu'est-ce qu'il va ajouter sur la licence? Il y a juste ça qui m'intéresse, mais sinon le genre lui-même.
Bah déjà, sur Halo 5, ils ont annoncé donc du 1080p 60 images par seconde qui pourrait tenir, voilà. Mm-hmm. Bon, c'est plutôt bien. Enfin, s'ils arrivent à le faire, parce que à chaque fois ils nous disaient ça au début de la génération et tous les jeux quand ils sortaient, c'était sur Xbox One, c'était du 900p 30 images par seconde, super. En tout cas pour Halo 5, il y a un mode coop jouable en ligne uniquement. Il y aura pas de coop en splitté, je crois. Ils ont annoncé ça. C'est un petit peu dommage. Et puis, le multijoueur, il y aura aussi 20 cartes au début, plus 15 cartes qui sortiront et qui seront gratuites. Voilà, ça, c'est bien, au moins.
Bon, bah, sinon, à part ça, quand même, je note que même si il y a des jeux qui ne seront pas à l'E3, ça fait quand même 6 exclus pour Microsoft, ce qui est pas mal.
Oui.
Alors que Sony, à côté, pour le moment, c'est un peu la dèche, quoi.
Ouais, donc, ils ont le Tomb Raider.
Qui est temporaire, par contre.
Oui, est-ce que temporaire, oui, c'est vrai. Mm. Mais bon, ça sera, il sera quand même montré à la conférence Microsoft, quoi. Mm. Ils vont pas le montrer à la conférence, parce qu'il y a Square Enix qui a une conférence, peut-être qu'ils seront dans les deux. Mais en tout cas, ça fait une grosse exclue pour la fin d'année de Microsoft, et parce que quand on sait que Uncharted 4, il a été reporté à 2016, bah, voilà, un jeu un peu d'esprit aventure, exploration de temple, bah voilà, ça sera sur Xbox One qui sera et pas sur PlayStation 4, vous aurez pas de concurrence en face. Et sinon, ça fait vraiment suite, quoi. Et y a pas, pour l'instant, j'ai du mal à m'enthousiasmer aussi pour la conférence de Microsoft, tout comme la conférence Sony, quoi.
Ben, même sentiment, j'imagine.
Oui, bah, de toute façon, en plus, moi, je suis pas un fan des licences qu'on a citées. Enfin, j'ai jamais eu de Xbox et sur PC, c'est pas le genre de jeu auquel je joue, donc, voilà.
Alors après, nous, on est là en
mode blasé. Après, je dis pas que c'est des mauvais jeux, hein, loin
ouais,
de là.
Non, mais je veux dire que par là, les fans des licences en question, eux, j'imagine,
ils sont ravis. Ah ben, je pense que ceux qui aiment bien Halo, ils sont contents que le cinquième épisode, il sorte, quoi.
C'est juste que moi, si tu veux, mon sentiment sur la next gen, là, pour le moment, elles sont où les nouvelles licences, quoi?
Bah, il y a eu The Order, tu te plains de quoi?
Parce que là, en gros, les seules nouveautés que je vois du côté de chez, c'est du côté de chez Microsoft, pour le moment, c'est Scalebound et Quantum Break. Et ça, c'est que des licences constructeurs, quoi. C'est-à-dire que chez les éditeurs tiers, pour le moment, c'est pas la folie non plus, quoi.
Mais de toute façon, maintenant, les exclus d'éditeurs tiers.
Ah non, mais je parle pas d'exclus, là. Je parle même de jeux multi. Même en termes de jeux multi, je trouve que c'est pas ouf, hein. Honnêtement, pour le moment, la next gen, ça me fait pas rêver, quoi.
Ouais, bah après, ça va, il y a quand même eu des bons jeux qui sont sortis là. Witcher 3, enfin, tu vois, Bloodborne, qui ont quand même bien mis, qui sont bien rentrés dans la next gen. Là, il y a le, enfin, en termes de AAA, il y aura le Batman qui va arriver, il y a le MGS qui a l'air assez bien pour le moment, de ce que j'ai pu en voir en tout cas.
Ouais, non, mais tout ça, encore une fois, ce sont des suites. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, qu'on est dans une industrie qui fait du surplace.
Ah oui, tu parles en termes de...
C'est-à-dire que, en gros, alors, il y a des jeux qui sortent, hein, ça, on est d'accord. Mais par contre, en termes de vraiment nouvelles choses, quoi, un peu de neuf, quoi. Un Halo 5, un Gears of War 4, enfin... Ou la maman, voilà, quoi. Passer à autre chose, quoi. Mais merde.
Après, ouais, mais c'est vrai que les gens aussi... Quand ils réclament souvent une suite à leur licence qu'ils aiment bien, et en plus de ça, en termes marketing et tout, c'est plus facile à vendre, c'est des trucs qui où t'as moins de risques en plus, donc pour vous trouver une nouvelle licence aujourd'hui, ça va être compliqué. Regarde même le nouvel Assassin's Creed, le Assassin's Creed Syndicate, j'ai l'impression que tout le monde s'en bat les couilles, tu vois, alors que Assassin's Creed, c'est quand même un jeu qui se vend à 10 millions d'exemplaires.
Mais tu vois, ce qui me fait chier, c'est qu'en plus, bon, là, c'est des triple A, donc à la limite, bon, voilà quoi. Mais ça se produit même avec des jeux de niche comme Dark Souls, quoi. C'est-à-dire que Dark Souls, on est déjà au troisième. Encore, je dis troisième, je suis sympa, je compte pas Bloodborne. Ça fait déjà quatre, tu vois. Enfin,
Bloodborne et Demon's Souls, ça ferait cinq. Hein. Le pire, c'est que les séries, ils sont déjà passés l'épisode 3. Tu vois, normalement, quand tu dis, ouais, tu fais une trilogie, c'est bien. Mais là, le troisième est déjà passé, tu vois, parmi Gear of War 4, Halo 5, Uncharted 4. Ça fait beaucoup de séries qui ont dépassé le stade de la trilogie déjà. Mm. Donc ça fait un petit peu chier à ce niveau-là. Quoi.
Bon, mais on va enfin passer du côté de Nintendo. Alors pour le moment, on n'a pas eu de grosses suites. On a juste eu... Enfin, s'il y a eu une grosse suite, mais pour moi ça n'en est pas une parce que j'en ai tellement rien à faire du jeu que voilà. Mais Hyrule Warriors 3DS... qui pour le coup est une vraie fuite parce qu'ils ont fait supprimer le trailer qui avait été diffusé dans la foulée et ils ont fait l'annonce du jeu du coup parce que visiblement
c'était raté.
C'est vraiment un truc qui voulait pas annoncer là quoi. En même temps, j'ai envie de dire c'est pas une grosse perte. Non, parce que bon voilà hein, bon je veux dire les mousseaux, voilà, bon, je vais pas répéter ce qu'on avait déjà dit l'année dernière quand on avait parlé de Hyrule Warriors, mais rien à foutre, quoi. Sérieusement. À part ça, on a eu Star Fox Wii U, qui, bon, est très attendu, hein, voilà. Puis, un petit jeu, comme ça, sur 3DS, que je ne connaissais pas, et qui apparemment est une suite d'un jeu qui était sorti à l'époque sur PlayStation, c'est Return to Popolo Croix. Et là, en gros, c'est un RPG tactique Jap en cel shading tout mimi, et j'adore complètement. Enfin, là, c'est old school, hein, donc forcément, ça me parle. Et vraiment, ça fait très envie, quoi. Enfin, en termes de DA, etc., c'est j'adore. Après, peut-être que ce sera chiant, hein, mais en tout cas, en termes de rendu, je suis fan. Bon, enfin, un jeu qui est joli sur 3DS et qui essaye pas de faire de la 3D dégueulasse.
Après, dans tout ce que t'as cité là, dans les trois jeux. Bah, Star Fox Wii U, on a rien vu du tout encore.
Bah justement, c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est que c'est Nintendo, c'est une des rares conférences où je me dis, ah...
On va peut-être voir des trucs qu'on a pas déjà vu.
On va peut-être voir des trucs, voilà, c'est ça. Star Fox Wii U, on sait qu'il est là, ok, mais bon...
On a rien vu, ouais.
On pourrait me dire, oui, mais Gears of War 4, on a rien vu aussi, oui, sauf que Gears of War, enfin, si, on techniquement, on l'a déjà vu, ce sera Gears of War 3 avec en HD, quoi. Star Fox Wii U, moi, je sais que c'est Nintendo, tu vois, j'attends de voir ce qu'ils vont proposer, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Parce que fondamentalement, si c'est le même gameplay qu'avant, sauf que c'est en HD, bon, pour le coup, ça m'intéresse beaucoup moins, quoi.
S'ils font un Star Wing, juste HD Wii U, bah, moi, je serais un petit peu déçu. Moi, j'aimerais bien un genre... Une sorte de Star Fox Adventure où tu peux prendre un vaisseau et hop tu vas de planète en planète. Pour moi c'est vraiment mon...
Bon, Star Fox Adventure en bien par contre.
Oui, non mais tu vois, enfin, je m'en fous, même si tu fous rien, enfin si la planète au pire c'est juste pour aller voir des marchands ou je sais pas quoi, mais au moins juste de prendre le vaisseau d'aller de me balader de planète en planète, moi ça serait, c'est mon kiff, ouais. J'ai envie, depuis tout à l'heure j'en parle en parlant de No Man's Sky et tout ça, mais juste le fait de pouvoir me balader dans l'espace, ça me ferait kiffer, quoi. Et mais c'est moi qui choisis où je vais, c'est pas, je suis pas sur un rail shooter là. Pour moi, si c'est un rail shooter comme tu l'as dit, les épisodes de Star Fox 64, l'île à toi, c'est tout ça, enfin je vais dire ok, allez, c'est bon, ça me saoule, je passe à autre chose. Et ce qui est bien avec la conférence Nintendo, c'est que, je sais pas si cette année ça va être le cas ou pas. Je vais pas dire de bêtises, mais l'année dernière, ils avaient fait une vidéo pré-enregistrée. Donc là, ils l'avaient pas lancé.
Non, mais ça y est, hein, les conférences de 3, c'est terminé, Nintendo. Ouais. C'est des vidéos pré-enregistrées, c'est comme ça. Ça marche, en plus, visiblement, les gens adhèrent, donc, ils auraient tort de se priver, hein.
Et en plus de ça, c'était, l'année dernière, ils avaient commencé sur un truc. C'était sympa à regarder. Tu commences.
Divertissant.
Tu vois le PDG Japon et le PDG USA qui se frite. Enfin, jamais vu ça dans aucune autre boîte, quoi. Et c'est enfin, j'ai trouvé ça vraiment super bien amené. En plus de ça, là, juste avant le 3, il y avait une vidéo où on voyait Régis s'entraîner pour le 3 et il avait l'air chaud, le gars. Donc je pense qu'ils peuvent nous réserver des bonnes petites surprises, quoi.
Ben?
Ouais, bah après voilà, ça je suis d'accord avec vous sur le côté conf pré-enregistré, ça a amené une petite touche et c'est sympa, puis comme tu dis ça a marché, donc ils auraient tort de s'en priver. Après moi, Hyrule Warrior, j'en ai rien à foutre. Star Fox, non mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas ma cam. Star Fox, moi j'ai le dernier que j'ai joué, c'était celui sur N64, bah Star Fox 64 d'ailleurs, qui était bien sympa. Bon, aujourd'hui j'ai pas de Wii U, donc je peux pas dire que je suis ultra intéressé. Après j'attends de voir quand même, parce que c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils font avec une licence un peu historique comme ça aussi. Et après par contre, ouais, Popolo Croix, c'est qui est aussi 3DS, je sais pas si on l'a dit. Lui par contre, c'est le type de jeu qui pourrait m'intéresser, un univers un peu fantasy avec un mélange de Harvest Moon,
coloré,
de RPG tactique, enfin c'est vraiment ce qui peut m'intéresser sur ce type de support.
Voilà. Alors après, évidemment, il y a la question, c'est que si ils annoncent pas grand-chose durant cette conférence, là, on va commencer à s'inquiéter. Parce que pour le coup, le catalogue Wii U,
il est un peu vide.
Voilà, c'est ça.
C'est le mot.
C'est le mot.
Et en plus de ça, ils ont dit carte sur table que Zelda Wii U ne sera pas le 3. Et que
ouais, donc, s'il y a pas Zelda, faut qu'ils montrent autre chose,
ouais.
Quoi, quand même.
Voilà, c'est ça. Et ni Zelda ni la NX, la nouvelle machine. Donc ouais. On sait pas.
Bon, en même temps, la NX on s'y attendait, hein, je veux dire.
Ouais, mais bon, enfin, il y aura pas ça, mais bon, ils vont montrer quoi? Ils vont montrer Yoshi Woolly Wars avec la peluche.
Bah non, mais après, tu sais très bien que. Non, mais tu sais très bien que Nintendo, leur conférence, il y a toujours des trucs qui ne sont pas du tout annoncés, qui n'ont jamais fuité. Pour le coup, ça fait partir des rares boîtes qui arrivent à garder des secrets. Et qu'on peut très bien avoir des trucs, des surprises.
Je pense que
quoi,
si on a des surprises, il y a des chances que ça vienne d'eux.
Pour le coup, l'année dernière, il y avait eu des surprises aussi. Splatoon, c'était pas du tout attendu. Mmh. Et d'ailleurs, Splatoon qui fait un carton, soit dit en passant. Voilà. Et Splatoon, on l'a pas vu. Personne ne l'a vu venir,
non.
Quoi.
Donc, c'est sûr que, enfin, Nintendo, c'est pas Ubisoft, quoi. Ils se protègent un petit peu mieux les secrets.
Non, mais à mon avis, honnêtement, Pour revenir sur les fuites quand même, deux secondes, parce que là on a fait le tour de l'ensemble des conférences, vous l'aurez compris, bon, moi personnellement a priori ce serait Nintendo qui aurait ma préférence, parce que je sais qu'on peut s'attendre à quelque chose, quoi, voilà. Bon. Par rapport aux fuites, enfin on sait tous très bien que c'est des fuites organisées, je veux dire, faut arrêter, c'est juste que les mecs ont peur de se faire noyer dans la masse à l'E3, mais du coup moi je voulais vous poser une question, c'est est-ce que vous pensez que le salon de l'E3 a encore un intérêt? Parce que fondamentalement, à part grosso modo faire un événement qui permettra de faire parler du jeu vidéo dans la presse généraliste, est-ce que les éditeurs ont encore un intérêt à faire leurs annonces à l'E3? Alors que il y a tellement d'enjeux financiers colossaux qui sont derrière que ben finalement vaut mieux faire son annonce dans son coin et finalement montrer des trucs à l'E3 pour après quand la presse généraliste vient, quoi, quelque part.
Oui, ben après, enfin l'E3 c'est le salon du jeu vidéo, donc ils sont là-bas pour montrer quand même ce qu'ils sont obligés d'être là-bas, d'être présents, parce que si t'y es pas, ça fait un peu genre comment dire, comment je pourrais formuler ça pour pas que
c'est simple, t'es pas le 3, on croit que t'es mort.
Ouais, voilà, mais bon, tu vois, quand ils parlent.
Non, mais par exemple, non, mais pour donner un exemple très simple, tu regardes Sega n'est pas le 3. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont eu des soucis machin, mais il faut savoir que Sega, par exemple, apparemment, ils ont des trucs qui marchent assez bien en mobile.
Oui.
Tu vois, mais comme ils sont pas le 3, tout le monde pense dit que Sega est mort. Bon, ce qui est pas vrai. Bon, après, peut-être qu'en jeux vidéo aussi, ils sont peut-être morts, en tout cas en termes de jeux vidéo japonais. Bon, tu me diras, comme il y a Atlus, c'est que Atlus, il y a Persona 5 notamment. Ah tiens, d'ailleurs, Persona 5, dont on n'a pas parlé, qui est chez Sony, hein. Mais comme c'est un jeu PS3, bon, voilà.
Non, mais comme il avait déjà été... ça fait longtemps qu'il a été annoncé, quoi. Ouais. On sait déjà qu'il avait été annoncé.
Une surprise, ouais.
Voilà. C'est pas une surprise que parce que là on n'a pas parlé des fois on a débordé un petit peu sur des jeux qui avaient déjà été annoncés, mais en gros ce qu'on avait mis c'était les trucs qui ont fuité cette semaine ou bien qu'on avait entendu parler mais on n'était pas sûr si c'est à l'E3, et enfin ouais. Pour mettre vraiment la situation claire et sinon pour revenir à ta question par rapport à l'E3, c'est que l'E3 à part que pour les professionnels qui sont là-bas, je pense que ça peut être intéressant s'il y a les démos de gameplay qui sont mis à leur disposition pour voir la première fois un jeu.
Mais tu vois, justement, moi je me dis, par rapport aux constructeurs, alors qu'ils aillent l'E3, enfin, certes, pour la presse générale, je pense que c'est indispensable de toute façon qu'il y ait un grand salon, tu vois, qui attire ces gens-là, mais pour le coup, moi je pense que l'intérêt vraiment des studios de développement, c'est de faire chacun fait son annonce dans son coin, tu vois, on montre les jeux à la presse, le public gamer est au courant, etc., et puis finalement, l'E3, ce n'est que le moment où, en gros... on montre les trucs à la presse généraliste. Moi, c'est vraiment mon sentiment. C'est-à-dire que moi, de plus en plus, j'ai vraiment que l'impression que, pour un public joueur, en tout cas, vraiment, le 3, c'est le salon qui sert à rien, quoi, en fait.
Oui, c'est vrai que, maintenant, il y a tout qui est balancé à l'avant. Mais en fait, le problème, c'est que là, par exemple, cette semaine-là, ils ont tout balancé à l'avant. En se disant, ouais, si je fais ça avant le 3, ça, j'aurai un peu plus d'attention. Mais comme tout le monde le fait en même temps.
Tout le monde l'a fait en même temps.
Voilà. Tout le monde le fait en même temps. Donc, en fait, ils sont noyés sous la masse, comme les autres, en fait. Donc, voilà, c'est pas.
D'ailleurs, vous avez bien vu, là, on vous a fait un déroulé un peu chiant d'une liste, voilà, où on a évoqué les différents jeux, mais, enfin, je suis sûr qu'à la fin du podcast, il y a personne qui se rappellera de tous les jeux qu'on a cités là, quoi. Parce qu'il y en a tellement, en fait, qui sont annoncés d'un coup, comme ça, surtout, enfin, voilà. En plus, c'est tellement des jeux pas, c'est des suites de machins qui sont attendus. Bon, enfin, vraiment, j'ai l'impression que, en fait, ce salon ne sert juste plus à rien, quoi.
Ouais, bah, enfin, en tout cas, nous, d'un point de vue joueur, c'est sûr que, après, enfin, si, ça peut servir à quelque chose si, en fait, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, en fait, à ces E3, ils nous font quoi? C'est qu'ils nous, tout ce qu'on a dit, finalement, c'est pas ça. C'est qu'il y aura que des annonces de nouvelles licences ou bien d'autres choses qui n'ont pas été dévoilées.
Mais est-ce que tu crois vraiment à ZH?
Non, j'y crois pas, mais je dis que ils nous prendront vraiment à contre-pied à ce moment-là. Mmh. Et là, oui, le salon aura un intérêt.
Mmh. Ben, tu y crois?
Ouais, bah moi en tant que joueur, j'attends pas grand chose. Alors après, on a dit, je pense qu'il n'y en a aucun de nous qui va se lever cette fois-ci pour pendant la nuit pour mater une conférence, parce que bah voilà. Après, je vais faire faire un lien avec le sujet d'après, mais c'est sur la réalité virtuelle. Pour moi, aujourd'hui, c'est le plus gros intérêt de l'E3, et notamment pour ceux qui y vont, ouais. C'est de pouvoir tester tous ces casques de réalité virtuelle, parce que aujourd'hui, ça, on nous en parle depuis un moment, mmh. C'est bien beau, mais quel est le ressenti vraiment? Aujourd'hui, il y a que les gens qui ont testé, et encore, jusqu'à présent, c'était que des versions de développement. Alors là, ça va arriver avec les versions définitives, notamment avec l'Oculus qui a fait une conf cette semaine pour présenter son produit définitif, où là, on va pouvoir tester des vraies choses avec, a priori, certains jeux. Donc, dans la conf Oculus, il y avait Eve Valkyrie qui était montrée. Alors, peut-être que, on va pouvoir, certaines personnes à l'E3 vont pouvoir vraiment le tester avec le casque. Enfin, moi, aujourd'hui, c'est la vraie plus-value. Et puis c'est le seul moyen de démontrer toutes les possibilités de la réalité virtuelle, c'est de la tester. Parce que sur le papier, c'est bien beau, mais ça veut rien dire.
Oui, d'ailleurs, finalement, est-ce que c'est pas ça le truc le plus intéressant du salon, j'ai envie de dire ? Parce que là, pour le coup, personnellement, les jeux, j'attends pas grand-chose. Enfin, c'est pas un salon qui m'excite. Bon, après, vous le savez, hein, je veux dire... Dans ce podcast, on part souvent des indés, c'est par hasard, c'est parce que chez les indépendants... Alors, je demande pas forcément des jeux hyper originaux, machin. Pour moi, l'originalité n'est pas une fin en soi. Mais au moins, il y a des nouvelles choses, tu vois. Pas forcément des énormes trucs. Mais du coup, c'est pour ça que je suis plus attiré par les indés. En général, c'est parce que, à droite, à gauche, tu repères des petits trucs comme ça. C'est pas grand-chose, mais il y a cet effet nouveauté que je retrouve chez les indés qui n'existe plus chez les gros studios. Et du coup, pour moi, vraiment, l'intérêt de ce salon, c'est vraiment le côté réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'ils vont montrer? Est-ce que ce sera le salon de la réalité virtuelle cette année? Vraiment, pour moi, c'est la techno que j'attends sur ce salon-là, quoi.
En tout cas, est-ce que ce sera le salon de la réalité virtuelle? J'ai envie de dire, c'est bien parti pour, parce que voilà, il y a Sony qui va montrer son Morpheus.
À mon avis, ça va être le principal focus sur leur conférence.
Ouais, sûrement. Il y a une conférence PC Gaming Show aussi à cette E3. Je pense que la réalité virtuelle, on va en avoir beaucoup. Il y a l'Oculus qui a fait sa conférence là hier ou avant-hier, je sais plus. Dont tout le monde s'en fout, mais bon.
Il y a Valve qui a fait sa conférence aussi. Voilà. Pour le coup, il y a eu un vrai succès parce que le prototype montré était vraiment bluffant apparemment.
Oui, après d'après les retours.
Oui, parce que pour expliquer un peu la différence du dispositif de Valve par rapport à l'Oculus, c'est que le dispositif de Valve, en gros, c'est il gère la notion de déplacement dans l'espace en fait. Et il détecte les mains des joueurs, etc. Enfin bref, c'est vraiment bluffant apparemment. Et enfin tous les journalistes qui l'ont essayé ont trouvé ça extraordinaire. Alors après c'est toujours le même problème. C'est super quand t'es dans des conditions optimales dans une pièce vide. Mais quand tu te retrouves chez toi, ça, à mon avis, ça sera pas la même.
Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que comment ça marche. C'est quand t'as le casque, on sera dans le jeu, mais on verra pas voir. Ce qu'il y a devant nous, donc si t'as un petit salon, ça va être un petit peu galère. Mais il faut savoir que donc le casque calcule en fait la distance avec, je crois, ils mettent, d'après ce que j'ai entendu, il faut mettre deux capteurs dans la pièce pour calculer les murs. Et quand tu avances, et dans le jeu, il y aura une sorte de d'indication à l'écran pour te dire attention, il y a un mur devant toi. Donc si tu continues à marcher tout droit, toi tu vas rentrer dans le mur. Donc à ce moment-là, ça va calculer ta trajectoire. Pour que te faire aller dans l'autre sens, mais quand tu vas marcher, tu iras toujours dans la direction où tu voulais aller. C'est pas parce que tu vas changer d'angle à ce moment-là que ton personnage dans le jeu va changer d'angle aussi. Parce que toi, si tu veux continuer tout droit et que ton salon il fait que 10 mètres carrés,
ça c'est pas pratique du tout. Voilà. Enfin,
c'est ça.
Franchement, pour moi, c'est une idée à la con pour le coup.
Non mais après,
pour le coup, tu vois, j'ai vu que tous les journalistes qui étaient super enthousiastes et tout, je dis oui, mais en vrai, ça sera de la merde parce que. Franchement, le délire de alors oui, ok, ah là, il y a un mur dans mon salon, hop, je me retourne. Mais sérieux, t'imagines jouer à un jeu avec ça?
Ça veut dire qu'en gros,
c'est limité à des expériences expérimentales dans une pièce. Enfin, c'est vraiment pour le coup, tu vas pas faire un vrai jeu avec ça.
On va prendre le cas de Witcher 3. Imagine, tu dois te taper toute la distance que Geralt se tape dans le jeu. Mais moi je te dis, à la fin de ta partie, quand t'as fini Witcher 3, t'as perdu au moins 50 kilos. Tu vas en faire du sport, tu vas en faire dans le jeu, dans ton salon, quoi.
Et puis. Ouais, non mais.
Ouais, j'allais dire justement, c'est là peut-être que Microsoft est malin aussi, parce qu'ils font un casque un peu différent, qui fait pas de la réalité virtuelle, mais la réalité augmentée.
Mais de la réalité augmentée, voilà.
Voilà, c'est-à-dire que tu vas être dans ta pièce, tu vas voir les murs de ta maison, tu vas être dans ta pièce normalement, et par contre, tu vas voir des trucs qui popent, tes jeux, etc. Alors après, ça sera sûrement pas pareil, comme on disait, c'est difficile à adapter aux jeux d'aujourd'hui, aux jeux voilà, type The Witcher, on va prendre l'exemple. Mais par contre, il y a des possibilités de faire des licences vraiment exclusives à ça et qui seraient super intéressantes à un jeu à réalité augmentée, quoi.
Alors, on est d'accord, par contre, il y a des possibilités, mais ça, c'est le même problème que ce soit sur l'Oculus ou la techno de Microsoft. C'est que, ouais, il y a des possibilités, mais on a vu ce que ça a donné avec Kinect et compagnie, quoi.
Ben, le problème, surtout, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de prix. Ça risque d'être très cher, parce que les premières rumeurs de l'Oculus, qui est, on va dire, le moins cher de tous, ça serait le prix, ça serait entre 450 et 500 euros.
Je crois que le moins cher, a priori, ce serait Morpheus.
Ouais, Morpheus ouais, va être un peu moins cher.
Morpheus, ça serait le prix d'une PS4, hein.
Ah, ouais, donc 400 euros, quoi.
Oui, donc ça,
donc, ça veut dire
comme...
que, enfin, c'est, en termes de coût, c'est énorme.
Valve, je sais qu'on parle de 600
ouais,
euros.
Ouais, Valve, bah, il est plus évolué, donc c'est normal que ça soit plus cher, mais c'est, enfin, oui. Le problème, c'est arriver à trouver les joueurs qui peuvent se payer ça pour le moment, trouver des mecs qui veulent faire des jeux adaptés à ça, sachant que, bah, le public va être super restreint, ça risque de mettre du temps à se lancer, quoi. Même si c'est non, le futur, ça.
Il y a aussi un gros bémol pour le casque de Valve, là. C'est que apparemment pour le faire tourner cette technologie là il faut une bécane ultra puissante, donc pour un minimum un ordinateur de 1 500 euros, quoi.
Bah, il faut pas... le problème c'est qu'il faut être capable d'afficher deux écrans à fond, ça. Avec le rafraîchissement qu'il faut, donc il faut une carte graphique ultra récente,
voilà, c'est ça, exactement.
Donc ça veut dire que du coup les jeux vont être limités à cause de ça,
voilà.
Typiquement, je pense que The Witcher 3, enfin un jeu comme The Witcher 3, t'oublies, quoi, en open world, c'est même pas la peine, quoi.
Ouais.
Du coup, on va se retrouver avec des expériences super restrictives. Enfin, moi, franchement, pour le moment, la réalité augmentée, enfin pour l'avoir essayé, c'est un truc qui me fait rêver. Mais je me dis que actuellement, le truc est juste pas viable, quoi.
Ah oui, non, financièrement, c'est pas viable.
La techno est beaucoup trop chère, le parc de joueurs est beaucoup trop restreint, en fait, et du coup, ben, les studios, ils vont voir ça, ils vont pas développer de jeux là-dessus.
Ah bah oui, c'est sûr.
Ça va faire comme avec Kinect, quoi, en fait. Moi, plus ça va, plus je suis persuadé que ce sera comme ça.
Ah, mais moi, je pense aussi que ça va être un flop pour l'instant, mais c'est les préparatifs au futur, voilà. Dans quelques années, on pourra faire la même chose pour 4 ou 5 fois moins cher, et puis petit à petit, on va y arriver avec, on va tâtonner quelques années, il y aura différents projets, voilà, là, on parle par exemple, il y en a un de réalité virtuelle, de réalité augmentée, donc il va y avoir plusieurs choses qui vont être tentées, et puis ça finira par arriver, mais bon, c'est pas, aujourd'hui, c'est pas mûr, c'est sûr.
ADH?
Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref, rappelez-vous du Virtual Boy. Non, mais enfin,
le Virtual Boy, c'est une technologie sortie beaucoup trop tôt.
Bah oui, non, mais c'est...
Là, quand même, si tu veux, on a des technos qui marchent, en fait.
Oui, les technos sont au point.
Ah, ça y est, je me rappelle de ce que je voulais dire, c'était que, par rapport au casque de Valve, c'est que je trouve l'idée, super, intéressante sur le papier, mais qui a l'air d'être de la mauvaise idée, une fois appliquée à la réalité.
Ouais, c'est-à-dire que tout le monde ne vit pas dans une grande maison avec un salon.
Exactement,
immense,
quoi. Et après,
il y a rien dedans, quoi.
C'est ça. C'est des trucs que sur le papier, ça a l'air cool, tu vois. Mais une fois que tu vas l'essayer chez toi, tu vas l'essayer peut-être une demi-heure. Et au bout d'un moment, ça va te faire chier. Tu vas dire putain, mais pourquoi j'ai acheté ça. Et sinon, moi, je suis assez hypé par, on va dire, la réalité augmentée, parce que j'imagine bien, par exemple, pour Microsoft, s'ils te font un Minecraft. Et genre là dans ton salon, t'as ta construction qui pop comme ça en plein milieu.
Ouais, non, mais c'est du Lego, quoi.
Ouais,
ah oui, non, mais là, mais enfin pour moi ça serait, enfin si je serais Microsoft, je pense que je travaillerais là-dessus, parce que là.
Mais t'imagines, non mais sérieux, t'imagines un Yu-Gi-Oh.
Là tu serais dans le dessin animé.
Ouais.
Avec, tu vois, d'accord avec vous, c'est super intéressant. Mais est-ce qu'il y en a un de vous qui mettrait 500 euros pour pouvoir y jouer, sachant qu'en plus il faut des potes pour y jouer?
On est bien d'accord, c'est ce qu'on a
voilà,
dit.
Voilà, mais voilà, exactement. Après, je suis d'accord avec vous. Si on te le file, le casque, moi je l'utilise, tous les jours. Hein.
Ce qu'on veut dire aussi, c'est que en termes de praticité.
Ah oui.
Je pense que la réalité augmentée a plus d'applications, si tu veux, que la réalité virtuelle, en fait.
Ouais.
Tout simplement.
Je suis d'accord.
En tout cas, qu'elle apporte plus de choses.
Ouais.
C'est mon opinion, moi. Voilà. Aussi, par contre, il y a une exploitation qui peut être faite des casques de réalité virtuelle dont on n'a pas parlé. C'est quand tu mets, il faut savoir, tu peux l'utiliser comme écran, en fait. C'est-à-dire que quand tu mets un casque de réalité virtuelle et que tu joues normalement, quoi, on va dire, sans vue à la première personne, etc., ça te fait quand même un super home cinéma, quoi, on va dire. C'est-à-dire que t'as vraiment l'impression d'avoir, quand tu mets le casque comme ça sur ta gueule, t'as vraiment l'impression d'avoir un écran immense en face de toi, en fait.
Et oui, du coup, en termes d'immersion.
Je pense que s'il y a un point où ça pourrait se vendre, en fait, c'est sur ça. C'est-à-dire qu'en gros, ça remplace ta télé, quoi.
Oui, mais de toute façon, oui, t'as raison de venir là-dessus, parce que dans la conférence d'Oculus, bizarrement, ils ont fait un partenariat avec Microsoft et il y aura une manette Xbox fournie avec. Donc c'est pas pour rien non plus, c'est qu'aujourd'hui, ils savent très bien que le public et les jeux sont pas prêts pour ça, et que peut-être qu'ils se disent aussi que le meilleur moyen de le vendre, c'est pour augmenter l'immersion d'un jeu aujourd'hui, pour jouer, continuer à jouer à la manette, mais pour avoir vraiment l'écran et le son en direct, quoi.
Et ça, pour le coup, tu vois, ça m'intéresse.
Ouais.
Ça marche, c'est-à-dire que de toute façon, là, pour le coup, t'as pas besoin de calculer deux fois l'image, on te stream juste l'image sur la télé, enfin, sur ton écran à toi plutôt que sur la télé, quoi. Et pour le coup, ça peut être super immersif aussi, et finalement, le fait de prêter, ça peut faire passer, je pense, auprès du public, le fait de te dire que si on te vend pas ça comme un casque de réalité virtuelle, mais un casque immersif où t'as de la réalité virtuelle en plus, ça peut se jouer, tu vois, je pense.
Ouais.
Après, ça fait cher quand même l'écran.
Ben, tu vois, c'est le prix de certaines télés.
Ouais, mais après voilà, mais c'est là, ça sera que pour du jeu vidéo, quoi.
Ben non, pas forcément.
Non, du coup, tu peux l'adapter à tout.
Non, ça peut faire pour franchement, regarder un film avec ça, je t'assure, c'est visiblement de ce qui existe, t'as vraiment, tu sais les écrans que tu vois, le 3 là.
Ouais.
Les immenses, etc. T'as la sensation d'être devant un écran comme ça, en fait.
Comme la conférence Sony, là.
Voilà.
À chaque fois, ils prennent la même salle. Parce que Microsoft, ils ont en général un grand écran au milieu. Alors que Sony, tu vois, ils ont l'écran, mais qui fait un peu une sorte de 180 degrés autour de la salle. Et qui est immense. Et puis, enfin, ouais, quand je dis ça fait cher l'écran, ça fait quand même cher l'écran parce que c'est que pour une personne, alors que là, ta télé, c'est dans ton salon, tu vois, c'est pour toute la famille, si vous voulez regarder.
Mais tu vois, attention, je dis pas que ça va être un énorme succès non plus, mais
non.
Ce que je veux dire, c'est que d'un truc invendable, enfin, qui se vendra à trois personnes, quoi, on peut passer à un truc qui potentiellement peut intéresser une clientèle de, entre guillemets, geek, quoi, c'est-à-dire, des mecs qui veulent une expérience super immersive pour leurs films, pour leurs jeux, etc.
Oui, bah après c'est
avec en plus fonctionnalité casque de réalité virtuelle, quoi.
Après moi je vais pas me lancer dans les analyses à la patcheur pour savoir si ça va marcher ou pas. J'en ai aucune idée.
Bah, c'est pas une analyse.
Moi personnellement je vais pas me lancer dans savoir si ça va marcher ou pas parce que j'en ai aucune idée, en fait. Pour moi personnellement, je sais pas si ça va marcher ou pas. J'ai même pas d'opinion là-dessus pour savoir si je pense que ça va marcher ou pas, parce que je sais pas comment ça prend ou pas, si les gens sont réceptifs à ce genre de technologie, en fait.
Ben?
Ouais, non, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour. Après, oui, en plus, pour, comme tu disais, pour l'immersion, ça, pour la paix des ménages aussi, ça peut aider. C'est-à-dire que tu peux jouer à ton jeu vidéo dans ton salon avec ta copine à côté qui regarde la télé.
Voilà. C'est ça.
Une raison de plus.
Bon, après, t'auras l'air d'un gros autiste.
Ah hein, oui, mais, oui, bien sûr.
De toute façon, moi, je suis un autiste de base, donc voilà, c'est pas un souci. Bon, alors, vous l'aurez compris, par rapport à l'E3, visiblement, vu nos opinions sur le salon, on n'a pas prévu grand-chose dessus, hein. Juste, peut-être, on fera un direct sur la conférence Microsoft parce que c'est un horaire raisonnable et que il y aura peut-être des choses intéressantes. Je dis bien peut-être, hein, attention. mais à part ça, honnêtement, c'est pas un salon qui nous fait envie. En plus, c'est à des horaires totalement dégueulasses. C'est-à-dire que voilà,
enfin, il y a beaucoup, il y a déjà deux conférences à la nuit, de lundi à mardi, voilà, ouais. Entre 1h et 5h du matin, en gros.
À une époque, on l'a fait, mais
on
bon,
était jeunes.
On était jeunes, et surtout, c'était l'annonce des nouvelles consoles,
oui, voilà,
etc.
On était un peu plus hypé qu'aujourd'hui.
Voilà. Et puis, honnêtement, là, le salon m'intéresse tellement pas que, enfin, c'est ahurissant, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu les annonces s'empiler comme ça, et puis j'ai fait ouais, rien à foutre. En fait, en gros, là, c'est vraiment mon sentiment actuel sur le salon pour le moment, c'est Alors personnellement, la hype de l'E3, je la vois pas du tout, quoi. Je pense que c'est votre cas aussi, messieurs.
Bah ouais. Moi, franchement, c'est plus les E3 avancent, plus je suis de moins en moins hypé. Et en fait, limite, tu vois, j'attends juste les que les conférences finissent et je regarde les annonces qui ont été faites. Mais genre coup d'œil, quoi, vite fait. Hop, ok, vas-y, c'est bon. Ah, ils ont fait Shenmue 25, ok, c'est cool, vas-y, super. Et puis voilà, tu vois, je regarde juste ça comme ça, comme comme si je regardais un résultat de foot sur mon téléphone d'une équipe pour sauver le championnat, tu vois. C'est pas une part, mais je vais dire Sochaux, Montpellier. Je regarde, ok, ils ont fait ce résultat-là, mais je vais pas, parce que je veux pas m'intéresser à ce match-là, mais juste pour savoir quelle équipe, enfin pour savoir que par rapport à combien de points mon équipe a d'avance sur eux, je vais regarder comme le résultat. Bah là, le 3, j'ai envie de faire la même chose pour voir. Alors Microsoft, ils ont fait quoi comme, parce que j'ai pas du Xbox One par exemple. Hop. Ah tiens, ils ont annoncé un nouveau jeu, ouais, ça a l'air sympa. Bon, je vais peut-être voir une vidéo de gameplay, mais pas plus que ça. Je vais pas être là maintenant à suivre les conférences à l'heure fixe comme auparavant.
Bah disons qu'on a tellement été déçus par le passé aussi, faut dire ce qui est. C'est-à-dire qu'on s'est tellement fait chier à certaines conférences que... Voilà, on a fini par apprendre, hein, ça a mis du temps. Mais
en tout cas, vous inquiétez pas, vous auriez le débrief de l'E3, parce que voilà, on va quand même suivre ce qui s'est passé un petit peu, et si c'était vraiment
alors, par
la merde...
contre, ce sera juste toi et moi, TH, de ce que j'ai compris, puisque Ben ne sera pas là la semaine prochaine.
A priori, ouais.
Morgan est en vacances, il en a rien à foutre.
Ah, mais tu vois,
c'est pour vous dire à quel point l'E3 passionne un gamin pro, tu vois. C'est...
je m'en frotte les mains déjà, parce que si c'est vraiment de la merde, je vais pouvoir en raconter des conneries.
Bah alors après peut-être qu'on aura des surprises encore une fois.
Voilà, l'avantage c'est qu'on peut qu'en avoir là.
À chaque E3 j'ai l'impression qu'on dit ça et à chaque fois la différence entre cette E3 là et les précédents c'est que vraiment là maintenant on n'y croit plus du tout quoi. C'est ça le truc. Avant on avait un petit espoir encore, on se disait bon allez peut-être non mais franchement moi sérieusement à part Nintendo parce que je sais que c'est les seuls encore qui arrivent à te sortir un truc comme ça. Parce qu'ils l'ont déjà fait en fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils l'ont fait l'année dernière avec Splatoon, etc. Mais à part ça, vraiment, je me dis, mais j'attends vraiment rien de ce salon, quoi. C'est flippant. Voilà, j'espère qu'on vous a pas trop ennuyé avec notre ton monocorde, mais je pense qu'on a assez bien fait passer le fait que, franchement, le 3, on en a rien à foutre.
Le 3, osé.
Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut.